Rebonjour. Alors, c'est vraiment une grande joie d'être là. J'ai apprécié le temps de louange. Je trouve que les chants a cappella, ça permet de se recentrer sur les paroles, de pas juste voilà, être absorbé par le rythme ou la musique, mais de parler et de chanter ces paroles comme une prière. Et c'est ça, c'est à ça que sert la louange. C'est de prier à Dieu la reconnaissance. Donc, je trouvais ça très, très beau. Donc, merci d'avoir prié et chanté ensemble dans la louange. Et une chose qu'on a vue aussi ce matin, c'est la foi. La foi qui souvent apparaît quand tous nos moyens intellectuels, tout ce dont auxquels on fait appel souvent, la sagesse, l'intelligence, nos connaissances, arrivent au bout. On n'a plus de moyens, on ne sait plus comment faire. Et là, Dieu intervient et il nous demande d'avoir la foi. Et l'Ecclésiaste parle beaucoup de ça. Il parle beaucoup de la sagesse et des limites de notre compréhension. Avant d'attaquer notre texte, laissez-moi vous poser la question. Quel est le moyen que toi, tu utilises pour parvenir au bonheur? Quel est le moyen que tu utilises pour parvenir au bonheur? Depuis le début de son livre, l'Ecclésiaste est en train de dire à tout le monde que tous les moyens qu'il a utilisés, les moyens qu'on utilise généralement pour parvenir au bonheur, sont inefficaces, comme un coup dans l'eau. Et quels sont deux de ces principaux moyens qu'on utilise souvent? C'est l'argent et la sagesse. L'argent et la sagesse sont un peu comme nos deux chevaux préférés, c'est nos dadas. C'est un peu les deux chevaux sur lesquels on a tendance à miser dans la course au bonheur. Je me dis, si je n'ai pas l'argent, le bonheur, ce n'est pas pour moi, ça n'arrivera jamais. Et si je n'ai pas la sagesse, ça n'arrivera pas non plus. Ce sont deux choses dans lesquelles nous nous confions souvent. Et l'une des périodes où se manifeste plus notre regard sur l'un ou sur l'autre, c'est la jeunesse. On a fait un camp cette semaine avec les jeunes. Et c'est intéressant de voir, dans cette période où on choisit la trajectoire de vie, où on choisit nos études, qu'est-ce qui nous attire le plus? Certains, très clairement et sans tabou, stipulent que pour avoir le bonheur, l'argent est quelque chose qu'on ne peut pas manquer, on ne peut pas se passer d'un peu d'argent sans avoir le bonheur. Et pour d'autres, c'est plutôt la sagesse, la connaissance. La connaissance des choses, leur compréhension, c'est ce qu'on appelle la sagesse, et comme le cheval le plus prometteur. Et c'est bien connu, comme Francis Bacon l'a dit, le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Sans pouvoir, pas de connaissance. Et plus on a de connaissance, alors plus il est capable de se hisser sur les échelons de la société et d'avoir un poste qui soit élevé au pouvoir, au contrôle. Et alors, on a accès au bonheur. Ce n'est pas nouveau. Pour Confucius, déjà, pour les philosophes grecs, Platon, notamment Socrate, l'étude des choses et de la sagesse était la manière d'obtenir le bonheur. Et les choix qu'on fait, déterminés par la sagesse depuis qu'on est enfant, se déterminent en « je fais face à une situation, je fais face à un problème, j'acquiers la connaissance et j'y réponds de la manière adéquate, à partir de mes connaissances et de mon expérience. » Et à ce jeu, on n'est pas tous égaux. Pour certains, on a plus de connaissances que pour d'autres. Nous n'avons pas la même qualité d'analyse des problèmes et nous n'avons pas tous la même capacité à faire les bons choix. Nous sommes tous plus ou moins sages. Et j'en ai fait la découverte assez frappante quand je suis arrivé en région parisienne sur cette question de la connaissance. Moi, je viens d'une famille assez simple. J'étais dans un lycée assez simple. Et quand je suis arrivé en région parisienne, dans une école qui s'appelle l'INALCO, qui est considérée pour beaucoup comme, pour les langues orientales, l'une des meilleures écoles, j'ai découvert comment les jeunes étaient engagés dans une compétition, et il y avait un esprit de compétition dans la course aux études. Et peut-être que vous vous dites, effectivement, si mon enfant, je veux qu'il réussisse, il faut absolument qu'il aille dans la meilleure école, qu'il fasse soit l'ENA, soit Sciences Po, et alors potentiellement, il aura une chance plus grande d'accéder au bonheur. Et c'est ce que j'ai entendu aussi dans la bouche de certains jeunes pendant ce week-end. Je veux absolument que mon jeune aille dans une grande école. Et c'est dans la conception très répandue. L'accès à la connaissance et à la sagesse sont nécessaires pour accéder au bonheur. Alors, je ne sais pas si toi, c'est ce que tu t'es dit en étant plus jeune, je veux avoir accès à la connaissance et alors j'aurai accès au bonheur. Peut-être qu'au contraire, tu te dis c'est trop tard pour moi. Sans sagesse, sans connaissance, pas de bonheur. Et c'est trop tard. Peut-être que tu regrettes le choix de tes études, que tu te dis, si seulement j'avais choisi un autre choix d'études, si seulement j'avais choisi tel ou tel stage ou telle profession, alors peut-être que j'aurai une plus grande chance d'accéder au bonheur. Où en êtes-vous par rapport à ça? Et c'est la question que beaucoup de jeunes se posent actuellement, alors qu'ils attendent les réponses pour cet été. Qu'est-ce que je vais faire à la rentrée? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que ça va m'ouvrir la porte du bonheur? Est-ce que j'ai parié sur le bon cheval? Telle ou telle école? Telle ou telle piste? Alors, est-ce que la sagesse, c'est la clé du bonheur, vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment des avantages à la sagesse? Voici la réponse courte. Non. En tout cas, c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste dans son livre, depuis le début, dans la lignée de tout le reste du livre. Il nous dit « Tout n'est que fumée. Sous le soleil, que tu sois sage ou pas sage, au final, ça ne sert à rien. Tu vas mourir de toute façon. » Voilà ce qu'il te dit. Donc, que tu aies de l'argent ou pas d'argent, au final, ça ne sert à rien. Tu vas mourir de toute façon. Voici la réponse courte. Et on peut avoir lire le livre de l'Ecclésiaste avec deux clés, le premier passage et le dernier, l'introduction qui dit « Comble de l'inconsistance, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée », voilà son propos, et la conclusion qui nous dit « Écoutons la conclusion de tout ce discours, crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu mènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » Autrement dit, tout ce que tu fais sous le soleil, que ce soit l'argent ou la sagesse, tout ce à quoi tu aspires et tous les dadas que tu utilises et que tu mises pour obtenir le bonheur, tout cela n'est que fumée. Mais au final, écoute la conclusion de ce discours. Le jugement de Dieu pour l'éternité portera sur tout ce qui est caché. Le plus important, ce n'est pas ce que tu utilises pour parvenir au bonheur, c'est est-ce que tes actions sont justes ou injustes. Et c'est sur ça que portera le jugement. Sur tes actions faites en secret, cachées dans ta chambre. Voilà ce que nous enseigne l'Ecclésiaste tout au long de son livre. Et ici, dans ce chapitre 8, il s'adresse particulièrement aux sages, qui malgré tout, met toute son énergie à connaître la sagesse. Il lui donne des conseils pour qu'il ne place pas sa confiance dans cette quête de la sagesse pour être heureux, mais dans autre chose. Et il lui dit que la sagesse n'est pas la clé du bonheur à cause de trois choses. Trois impuissances, trois injustices face auxquelles le sage est complètement impuissant, il ne peut rien faire. Mais il dit quand même que la sagesse a une utilité pour pointer vers la clé du bonheur. Et j'aimerais commencer par voir ce texte, dans ce texte, pour le sage, et j'espère que chacun d'entre nous voulons être sage. Trois injustices face auxquelles le sage, malgré sa sagesse, est complètement impuissant. Premièrement, le sage est complètement impuissant face à l'injustice du pouvoir. Deuxièmement, il est complètement impuissant face à l'injustice de l'avenir et de la mort. Et troisièmement, il est totalement impuissant face à la justice des hommes. Regardons d'abord ces trois injustices face auxquelles il est totalement impuissant. Et ensuite, regardons la clé du bonheur pour le sage. Premièrement, le sage est impuissant face à l'injustice du pouvoir. Le premier verset nous donne envie. C'est presque un proverbe. On voit que le sage, il a le visage qui brille. Tout le monde l'écoute. La sagesse d'un homme fait briller son visage. Qui d'entre vous aimerait bien que quand il prend la parole en public, personne ne lui la coupe? Parce que son visage brille, parce que sa parole est porteuse de paroles sages. Tout le monde veut l'écouter et suivre ses conseils. Et nous avons dans ce passage l'image de ce sage. Et sa connaissance est si attirante qu'il se retrouve où? Avec les rois, dans le palais des rois. Et on espère effectivement que ceux qui nous dirigent vont s'entourer de personnes sages et dans notre démocratie qu'eux-mêmes seront sages. Il possède, à cause de cette sagesse, un certain pouvoir, un certain contrôle sur les choses, une certaine influence. Mais malgré cela, cette sagesse est impuissante. Elle est totalement impuissante. Je lis, verset 2, « Je te le dis, vous pouvez prendre la parole avec moi, je te le dis, respecte les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui, et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire, parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire, que fais-tu ? Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. » Autrement dit, le roi Le roi, quand il a pris une décision, qu'elle soit bonne ou pas bonne, juste ou injuste, le sage, malgré toute ta sagesse, ne peut pas influencer le cœur du roi. Si le roi a pris cette décision, même si elle est injuste, le roi est impuissant. C'est pourquoi le roi, comme il est dans le sage, comme il est dans ce passage, connaît les règles et le moment opportun. Il peut se retirer et ne rien dire. Et c'est le conseil que donne l'Ecclésiaste au sage. Si jamais dans votre entreprise, votre patron a pris une décision et que vous savez que quoi que vous en disiez, c'est une mauvaise décision et il ne changera pas d'avis, mieux vaut ne pas persévérer. Mieux vaut attendre le bon moment. Mieux vaut prendre son temps. Et Jésus nous invite de la même manière à être purs comme des colombes, mais rusés comme des serpents. Il serait fou pour le mouton de se jeter lui-même dans la gueule du loup. Et si le sage se met à dos le roi, il sait très bien que la sentence peut être radicale. Le sage est donc facilement, totalement impuissant face à la volonté du roi, et ce même si cette volonté est injuste. Deuxième chose auquel le sage est impuissant, le sage est impuissant face à l'avenir et à la mort. Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Et comme nous l'a dit Laura tout à l'heure, on peut avoir plein de plans, des projets, on peut essayer d'avoir trouver une crèche, trouver un appartement, etc. Et on projette sa vie comme cela. On a nos plans, on a nos plannings. Mais que nous soyons sages ou pas, personne ne sait de quoi demain sera fait. Verset 6, oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles, mais il y a un malheur qui accable l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera et qui lui annoncera comment cela arrivera. On est souvent bien fiers de nos projets, bien fiers de nos idées, mais en réalité, tout échappe à notre contrôle. Et le sage ne fait pas exception. La sagesse ne lui garantit pas que tous ses plans et ses connaissances lui permettront de contrôler les événements à sa guise. Et j'ai écouté récemment, j'ai entendu le témoignage de Laura Bretman qui a vécu cela de manière assez frappante. Et elle a grandi dans une famille juive, son père était chirurgien, sa mère vivait dans un ranch. Et un beau jour, son père est tombé malade, il a eu un cancer. Et à partir de ce moment, sa volonté, ça a été de transmettre à ses enfants toutes les connaissances dont ils auraient besoin pour faire face au monde une fois que lui serait parti. Il aura appris à se défendre, à arracher l'œil de quelqu'un qui voudrait l'attaquer. Il leur a poussé à vraiment apprendre à aller au doctorat et aux études les plus profondes, les plus loin. Il les a appris des données sur le corps, l'anatomie, parce qu'il était chirurgien. Mais malgré toutes les connaissances que lui avait et que ses enfants avaient, les événements et surtout la mort surprend sans qu'on puisse y crier gare. Du moment où son cancer s'est déclaré jusqu'à sa mort, qu'il a lui-même mis en place en buvant un produit pour se donner la mort, 5 ans après, les choses ont commencé à s'enchaîner. Son père lui avait dit « La vie, c'est comme un tapis roulant qui te donne des sushis. Tu dois prendre ce qui vient. Soit ça te fait sourire, soit ça te fait pleurer, mais il faut prendre ce qui vient. » Et le sage est comme ce client devant son tapis à sushis, il ne sait pas ce qui va venir, malgré toute sa sagesse. 5 ans plus tard, son père se donne la mort. Alors, juste avant de se donner la mort, elle l'avait au téléphone et il voulait la pousser à étudier un doctorat. Elle ne voulait absolument pas. Et il est mort juste après ça. C'était la dernière fois qu'elle entendait sa voix. Ce qui l'a hantée par le remords, et elle s'est mise de toutes ses forces à vouloir poursuivre ce que son père lui avait demandé, donc obtenir ce doctorat. Et elle a été hantée par le remords toute sa vie. 2 ans plus tard, le ranch de la maman a brûlé. Et le père qui avait utilisé ses années de maladie pour faire du miel, des réserves de miel pour ses enfants, a été perdu. Et tout ce qu'ils avaient prévu a été perdu. Et ce fut bientôt le tour de la maman également, d'être frappée par un cancer, fulgurant cette fois-ci. À l'opposé du père, il eut le temps de faire une cérémonie d'adieu avant son décès. Mais ce cancer l'a frappée sans crier gare. Malgré toute la sagesse, malgré la connaissance, malgré le ranch et le fait d'être un chirurgien, malgré le fait d'avoir fait un doctorat, on ne maîtrise rien. La sagesse ne permet pas de savoir ce qui viendra demain. Et comme le dit notre texte, il n'existe aucun moyen d'y échapper. Ce combat est le même pour tous, et même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Ainsi, le sage est impuissant face à l'avenir. Il est imprévisible, et sa mort est certaine. Verset 7, il ne sait pas ce qui arrivera, et qui lui annoncera comment cela arrivera. Troisième impuissance. Le sage est totalement impuissant face au règne du mal. Il est impuissant face au règne du mal et de l'injustice. Le cœur de l'homme est mauvais. Grande nouvelle. Mais on le voit particulièrement dans ce texte parmi les hommes au pouvoir. Le sage qui conseille l'homme au pouvoir est le premier témoin de ses abus. Il est la première loge pour voir à quel point le pouvoir met en avant la tendance de l'homme à dominer sur l'autre pour le rendre malheureux, comme ça nous est dit au verset 9. L'homme a la tendance de vouloir dominer l'autre pour le rendre malheureux. Et le pouvoir met en avant cela, il le fait ressortir comme un révélateur. Comme l'a dit Montesquieu, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Plus l'homme a du pouvoir, plus il est porté à en abuser. Tenter de dominer sur les autres, d'exploiter la situation pour soi-même. Et le fait que les hommes au pouvoir soient comme ça, ce n'est pas une exception. Il ne faut pas dire que c'est la faute des hommes au pouvoir. En réalité, chaque homme est comme cela. Si cela est vrai pour les hommes au pouvoir, l'homme en général est dans la même situation. Parce que le temps sous le soleil, aujourd'hui, est un temps où le mal domine et où le cœur de l'homme est mauvais. Comme le dit l'Ecclésiaste au verset 11, « Parce qu'une sentence contre des mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit de faire le mal. » Il fait le mal. Se remplit du désir de faire le mal. Et le sage et ses conseils pour le roi ne changent rien à cela. Surtout si cela vient du roi, le roi va de ce désir de faire le mal va faire le mal, et même si le sage est proche des arcanes du pouvoir, il ne pourra pas l'influencer de ce conseil. Et non seulement le cœur de l'homme est dominé par ce mal et le sage n'y peut rien, mais c'est également le règne de l'injustice. Le bien, celui qui fait le bien récolte la même chose que celui qui fait le mal, et celui qui fait le mal récolte la même chose que celui qui fait le bien. Comme il le dit au verset 14, il y a une réalité qui n'est que fumée et qui se produit sur la terre. Il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants et des méchants qui sont traités d'après la manière d'agir des justes. Comme nous l'avons vu et comme vous le voyez certainement autour de vous, les injustices sont partout et le sage et la connaissance ne permettent pas de s'en protéger. Alors, peut-être que nous espérons un avenir radieux pour nos enfants au travers de la meilleure éducation possible et d'une certaine sagesse. Mais pour l'Ecclésiaste, il est très clair que la sagesse n'est pas un ticket pour le bonheur. Tout simplement parce que la sagesse fait face à ces trois impuissances, trois injustices auxquelles il ne peut rien faire. Il est impuissant face aux ordres du roi. Il est impuissant face à l'avenir et la mort qui peuvent le surprendre malgré tout ce qu'il maîtrise. Et il est impuissant face au règne du mal et de l'injustice de ce monde. Alors vous allez me dire, à quoi bon la sagesse? Le proverbe et l'Ecclésiaste nous encouragent quand même à la sagesse, alors à quoi bon la sagesse? Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Ecclésiaste, malgré le fait qu'il dise que la sagesse sous le soleil, dans cette vie, n'a quelque part pas d'avantage par rapport à celui qui fait le mal, on va tous mourir et peut-être que celui qui fait le bien et qui est sage mourra avant celui qui fait le mal. Mais malgré cela, il y a un apport, un avantage, une porte ouverte qui l'en retire. Il nous dit, lorsque j'ai appliqué, à la fin du passage, verset 16, « Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre, en effet, les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni le jour ni la nuit, j'ai vu tout ce que Dieu a fait. » Dans sa quête de trouver la sagesse, il a vu quelque chose. Il a vu ce que Dieu a fait. Il a vu, premièrement, son impuissance. J'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il n'y parvient pas. Et même si un sage prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir. Il s'est rendu compte, je n'y arriverai jamais. Autrement dit, on a beau la chercher, c'est peine perdue. Cependant, comme nous lisons au premier verset du chapitre 9, il y a un avantage. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, à faire cette quête. J'ai fait tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. Qu'est-ce qu'il a découvert dans cette quête de la sagesse ? Il a découvert que absolument tout est dans la main de Dieu. Et c'est cette réalisation, c'est cette vérité qui est pour lui la clé du bonheur et qui est pour lui et pour nous la clé du bonheur. Toutes choses sont entre les mains de Dieu. Alors l'Ecclésiaste conseille aux sages, voilà quelle est la clé du bonheur. Si toute ta sagesse est impuissante, en réalité, tu peux quand même avoir le bonheur. Et c'est nos deux passages qui sont quelque part, qui ont donné tellement de fil à retordre aux commentateurs au fil des siècles, parce qu'ils avaient l'air tellement hédonistes, cueille le jour, carpe diem, profite de la vie. Le verset 12 et le verset 15. La raison pour laquelle cette vérité que Dieu tient tout entre ses mains est la clé du bonheur, c'est parce que cela lui garantit, il est sûr que Dieu fera justice. Alors qu'il voit autour de lui toute l'injustice qui règne dans le monde, voilà ce qu'il dit au verset 12. Le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre, l'injustice à l'état pur. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui, et qu'il ne sera pas pour le méchant. Il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre, parce qu'il n'éprouve pas de crainte devant Dieu. Il est certain que le méchant, même si aujourd'hui sa vie prospère et qu'il s'en sort même mieux que le juste et que le sage, l'ombre, son existence ne sera pas plus longue que l'ombre. C'est paradoxal et c'est contradictoire avec ce qu'il vient de dire. Il vient de dire il vit plus longtemps que le juste, et là il dit en réalité son existence ne sera pas plus longue que l'ombre. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'aller dans une nouvelle vie, à l'échelle de l'éternité, de toute façon, à l'échelle de ce qui se passe sous le soleil, nous vivons tous de la même durée, de la même longueur, que nous soyons bons ou justes, cela n'est que fumée, mais la conséquence, comme Dieu tient tout dans sa main pour l'éternité, c'est que le méchant paiera. Et c'est une certitude qui le prive du bonheur, totalement. C'est pourquoi son conseil aux sages, c'est que même si notre tendance naturelle, comme tous les hommes, et de laisser notre cœur se remplir par le désir de faire le mal, quand nous voyons le méchant qui s'en sort mieux que le juste, quand nous voyons que la sentence ne tombe pas et que Dieu est patient, nous pouvons nous dire, qu'est-ce que je gagne à faire le bien ? Qu'est-ce que je gagne à chercher la sagesse ? Mais il encourage, continue de craindre Dieu et de faire le bien. Même si la sentence tarde à venir sur le méchant, et même si le pécheur semble faire 100 fois le mal et continuer à vivre, comme il nous le dit, nous devons continuer à craindre Dieu et faire le bien. L'Ecclésiaste est certain que malgré tout cela, Dieu fera justice. Et c'est la base de son livre. Dieu fera justice. C'est sa conclusion à la fin du livre. Dieu voit ce qui est caché et il rendra justice parmi toutes nos actions, les bonnes et les mauvaises. Mais nous savons de notre côté de la croix que cette justice se fait en Jésus-Christ. L'Ecclésiaste ne savait pas. Il avait juste cette vérité essentielle. Dieu tient tout dans sa main. Et Dieu est juste, alors oui, je persévérerai à faire le bien, mais nous avons un éclairage encore plus grand. Nous savons que Dieu a fait et fera justice en Christ. À la fin des temps, les justes qui auront souffert malgré leur justice recevront le repos et la paix. Même si nous faisons le bien que nous souffrons, le repos et la paix sont à venir. Mais ceux qui auront fait souffrir et qui apparemment s'en seront sortis sans aucun souci, pour eux, ils recevront au contraire la peine et la souffrance éternelle. C'est ce que nous dit Paul aux 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 9. Écoutez ce qu'il dit. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos lorsque notre Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec des anges et sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra. Si vous croyez qu'il n'y a pas de justice dans ce monde, sur la terre, Pour l'instant, la justice n'est pas encore faite, mais la justice viendra. Ne croyez pas parce que actuellement le méchant ne reçoit pas ce qu'il devrait recevoir, que nous pouvons avoir une licence à faire le mal. Ne croyons pas que la justice ne sera jamais faite. La justice sera faite et elle sera terrible. Elle sera terrible. Le conseil que fait l'Ecclésiaste au sage de ne pas s'opposer au roi parce que son ordre est absolu et parce que ce qu'il dit va absolument s'accomplir s'adresse aussi à nous. Si le roi d'un pays fait ce qu'il veut, à combien plus forte raison le roi de l'univers ? À combien plus forte raison devons-nous nous mettre en règle avec le roi ? Comme il nous le dit, ne sois pas pressé de t'éloigner de lui, du roi, de Dieu également, et ne persévère pas dans une mauvaise situation. Si tu n'es pas en règle avec Dieu, si tu ne crains pas Dieu, si tu ne fais pas ce qui est juste, tu es dans une mauvaise situation. Ne persévère pas dans une mauvaise situation, car en effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire, parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire « Que fais-tu ?» Dieu est le roi qui nous dira à la fin « Qu'avons-nous fait ?» Au contraire, recherchons rapidement la sagesse et mettons-nous en ordre avec le roi, afin que lorsqu'il reviendra, nous ne soyons pas du mauvais côté et que nous ne nous retrouvions pas dans une très, très, très mauvaise situation pour l'éternité. Alors, trois impuissances, le sage est incapable de trouver le bonheur dans sa quête de sagesse parce qu'il est impuissant face aux ordres du roi, face au mal qui domine le cœur de l'homme et face aux injustices. Mais la clé du bonheur dans cette quête de sagesse, c'est de réaliser que Dieu tient tout dans sa main et qu'il fera justice ultimement. Alors, nous qui sommes sages et qui aspirons à plus de sagesse, quelle est la clé du bonheur aujourd'hui ? Comment recherchons-nous le bonheur aujourd'hui ? Vivons-nous le bonheur ? Voici la conclusion de l'Ecclésiaste. J'ai donc fait l'éloge de la joie, puisque le seul bonheur de l'homme sous le soleil consiste à manger, à boire et à se réjouir. Voilà ce qui l'accompagne dans sa peine durant la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Nous ne savons pas combien de temps nous allons rester sur cette terre. Peut-être que je peux m'écrouler dans les 10 prochaines minutes. Mais dans les 10 prochaines minutes qu'il reste, et la peine que j'ai, je transpire sous la chaleur par exemple, la peine que j'ai, je peux trouver de la joie. Tout est entre les mains de Dieu et la justice sera faite. Ce qu'il me reste aujourd'hui est de vivre simplement ma vie, de me réjouir de mon travail, de me réjouir de ce que Dieu me donne, du manger et du boire. Notre sagesse, notre quête de sagesse ne nous offriront pas le bonheur. Ils nous pointent vers la direction de regarder à Dieu. Mais nous pouvons aujourd'hui nous réjouir de tout ce que Dieu nous donne, simplement parce que c'est aujourd'hui le jour que Dieu a fait. Alors ne plaçons pas trop d'espérance dans la connaissance ou la sagesse absolue, ni pour nous, ni pour nos enfants, ni trop d'espérance dans les sages de ce monde qui dirigent nos gouvernements, mais plaçons notre confiance en Dieu qui fera justice ultimement. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que ce livre de l'Ecclésiaste nous montre à quel point je suis incapable de tout comprendre. Je peux faire des plans dans mon intelligence, dans ma sagesse. Je peux faire des projets, mais incapable de tout comprendre. Et surtout, cette promesse merveilleuse de pouvoir profiter de la vie en toi, de cette vie que tu nous donnes, de te glorifier par le manger, le boire, le travail, tout ce que tu nous donnes, en Église aussi. Seigneur, et je prie vraiment que tu nous donnes des cœurs simples, des cœurs d'enfants, qui savourent, qui rendons gloire, qui profitons de tout ce que tu nous donnes, qui ne cherchons pas à rentrer dans une quête de bonheur, dans des illusions, des choses qui ne sont que fumées, que ce soit une connaissance absolue ou que ce soit l'argent, mais vraiment de profiter de ce que tu nous donnes, avec cette sagesse que tu nous offres également, de croire que tu tiens tout dans ta main, Père. Et merci parce que c'est tellement rassurant de savoir que tu tiens tout dans ta main. Père, je prie pour moi. Ne permets pas que je sois assoiffé par une soif de connaissance qui m'offrirait telle ou telle chose, mais que je puisse croire que tu tiens tout dans ta main et que ta volonté s'accomplit ultimement. Que je puisse me réfugier dans la foi et croire que tu as réponse à tout et que tu réponds à nos besoins et que ta volonté s'accomplit. Merci pour la justice en Christ et ce repos éternel que tu nous promets. Donne-nous en tant qu'Église de fixer nos regards vers cela. Dans le nom de Jésus. Amen.